Bonjour à chacun, chacune. C'est vrai, je suis responsable du programme certificat à l'Institut biblique de Genève. Donc c'est là que j'ai croisé Stéphane. Et je me souviens qu'on était en C3, on avait prié pour vous et c'est chouette d'être là parmi vous. Apparemment, le vin est tellement bon dans cet endroit. Les gens sont invités à faire une discussion jusqu'en Texas, accompagnés par leur pasteur. Hein, c'est vrai. Ça va être du bon vin dans le coin. Je rigole. Déjà, je viens de me présenter. Comment vous vous présentez? Comment ça peut être forcément vos noms, votre nom? Après, votre nationalité? Moi, j'ai grandi en Californie, je suis américain. Français, suisse. Votre métier? Vos activités? Grand sportif ou un footballeur, skateboarder, je sais pas. Un joueur de jeux vidéo, c'est quoi le titre pour ça? On peut dire plein de choses, hein, plein de choses pour nous présenter qui capte l'essentiel. Alors, et Dieu, comment il se présente? Dieu. On a déjà vu ce matin hein, plusieurs noms. Yahvé, Adonai. Comment Dieu se présente? Je trouve intéressant dans la Bible, Dieu aime beaucoup le titre « le Dieu de Jacob ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut connaître comment Dieu a intervenu dans la vie de ces personnes, Abraham, Isaac et Jacob, si on veut vraiment comprendre l'essentiel de qui est ce Dieu. Par exemple, regarde dans le psaume 46. Deux fois, le psaumiste dit, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pour comprendre comment Dieu peut être une autre retraite pour nous, il faut savoir qui est ce Dieu de Jacob. J'ai fait des soirées de discussion à Genève. En fait, j'aime bien courir. En fait, des soirées de discussion sur un peu les thèmes sur les thèmes spirituels un peu, avec mes amis qui ne sont pas du tout chrétiens. J'étais quand même frappé de voir les gens avaient une certaine confiance dans une des idées assez floues par rapport à Dieu. Oh, il se dit, oui, je pensais, c'est sûr qu'il y avait quelque chose là-haut, mais bon, de quoi s'agit-il? Là, on ne sait pas trop. Hein, bon. Donc, très à l'aise, très à l'aise de parler d'une idée, peut-être d'un Dieu, d'une puissance, de quelque chose là-haut, mais les idées restaient très, très floues. Je pense que c'est très commun, peut-être dans notre société. Hein. Oui, bon, il y a quelque chose. Et ça reste assez flou, finalement. D'une certaine façon, on va voir Jacob, sa réaction, sa rencontre avec Dieu était tout à fait différente. Il était beaucoup moins à l'aise et beaucoup plus sûr de qui était vraiment ce Dieu. Et je pense pour nous aussi, aujourd'hui, est-ce que nous connaissons ce Dieu de Jacob? Donc, pour pouvoir regarder un récit, en fait, le récit, là où Jacob va rencontrer vraiment pour la première fois la réalité de ce Dieu. Je vous invite à trouver dans vos Bibles Genèse 28. Genèse 28, premier livre dans la Bible, à partir du verset 10. Je vais lire jusqu'au verset 22. Genèse 28, 10 au 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Haran. Arrivé à un certain endroit, il passait la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle, ou un escalier, difficile à traduire ce mot. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham. » Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ton descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici qu'il se trouve la maison de Dieu, c'est ici qu'il se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appelle cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, et s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Moi, je trouve ça intéressant de voir ce passage en trois temps. Dans un premier temps, de voir Jacob avant, comment Dieu se révèle à Jacob, et le Jacob après. Donc, commençons en parlant de Jacob avant. Et là, on va voir la déception et l'exil suite à la manipulation. Déception et exil suite à la manipulation. Alors, si on commence avec ce verset, il part de chez lui, il part de la terre promise. Je ne sais pas si vous avez récemment lu Genèse. Mais Abraham ne voulait surtout pas que son fils Isaac quitte la terre promise. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Alors pourquoi Jacob quitte sa terre natale? Bon, on voit dans le récit juste avant, parce que son père avait envoyé chez sa famille pour chercher une femme. Mais en fait, si on creuse un peu plus loin, on voit que ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que Jacob est dans une famille très religieuse et très dysfonctionnelle. Ça avait éclaté et son frère veut le tuer et est obligé de s'enfuir. En fait, c'est juste intéressant de prendre un petit moment, de faire un rappel par rapport à cette famille. On a le père Isaac, Maria et Rebecca avec Esaü et Jacob. Et chaque personnage vit un certain vide dans leur vie. Ils essaient de combler et ça amène un certain dysfonctionnement dans leur famille. Après tout, c'est quand même intéressant, hein. Moi, je suis responsable de cet institut et je lis les dossiers d'inscription. Et là, dans les dossiers d'inscription, ils marquent un peu leurs parents, etc., les listes d'où le candidat vient. Et si je reçois un dossier et c'est marqué « Mon père est Isaac » et « Mon grand-père, Abraham », c'est quand même un sacré famille chrétienne, on peut dire, hein, avec autant de personnes dans la famille qui connaissent Dieu, qui ont vu Dieu à l'œuvre dans leur famille. Même on sait que, si on calcule bien les âges, Jacob avait autour de 14 ans quand Abraham est décédé. Donc une relation avec Jacob, même sa naissance est une naissance miraculeuse, où Rebecca ne pouvait pas avoir des enfants. Isaac avait prié pour Rebecca et Dieu avait parlé à Rebecca lors de la naissance de ses jumeaux. Tout à fait extraordinaire, hein? Une famille marquée par l'œuvre de Dieu. Mais on voit qu'ils ont tombé dans un rythme assez dysfonctionnel. Le texte nous dit qu'Isaac, il préférait Esaü, parce qu'Esaü préparait du gibier. Il y avait un super bœuf bourguignon, et c'est ça qui a emmené un peu l'amour et l'amour de son père envers Esaü. Il dit que Jacob restait sous les tentes. Il aimait bien être chez lui, être à la maison. Et donc, Rebecca préférait Jacob. Lui, il avait comblé sa solitude. Il aimait bien cette relation avec son fils. Elle préférait Jacob. Puis on apprend que Esaü, il a suivi le modèle de son père. Et lui, à un moment clé dans sa vie, il avait vendu sa droit d'aînesse à son frère parce qu'il avait faim. Il revenait des champs, il avait très faim. Son père était en train de faire un super soupe, les lentilles. Il a négocié, il a vendu son droit d'aînesse. À un moment clé dans sa vie, il a lâché quelque chose avec une grande valeur. Mais je pense que Jacob, c'est l'exemple le plus marquant. Lui, il est marqué, il veut la bénédiction de son père et il va tout faire pour essayer de manipuler les circonstances pour être béni. Et c'est clair que Isaac préfère Esaü. Et du coup, au moment clé, Jacob, vous vous souvenez de cette histoire? C'est marrant comme ça. Hein. Il entend ma tante, son père voit pas très bien, il est malvoyant. Donc il se déguise comme son frère aîné pour essayer de tromper son frère afin de recevoir la bénédiction pour lui. Et il dit oui, c'est moi Ésaü, c'est pas Jacob. Il mentit directement à son père. Ça marche pas. Bon, ça marche. Il reçoit la bénédiction, mais son frère, il vient après, il se rend compte de ce qui s'est passé. Et il veut tuer son frère Jacob. Donc, Jacob est obligé de partir. Il quitte. Et il est sur la route. Il fuit. Alors, on voit cette famille. Chacun a une certaine vie, une solitude. Ou même Jacob qui cherche et qui va manipuler les circonstances pour recevoir cette bénédiction. Juste ce qui est intéressant, on a déjà vu ce problème dans une autre optique, plutôt dans le livre de Genèse. Vous vous souvenez de l'histoire de la première rébellion communautaire contre Dieu? Les gens en Genèse 11 qui ont dit « Ah, allons, ils ont trouvé une nouvelle technologie, une nouvelle manière de fabriquer des briques. » Donc ils ont « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommeil touche au ciel et faisons-nous un nom. » Afin que nous ne soyons pas dispersés par toute la terre. On a trouvé cette technologie, on va faire construire une tour pour toucher le ciel. Pourquoi toucher le ciel? C'est juste pour avoir une belle vue sur la région? Ah non, au ciel, c'était les dieux. De toucher, d'avoir accès aux dieux et leurs bénédictions. Voire même de ne pas avoir besoin de Dieu. On va arriver au ciel. On va surmonter nos difficultés. On va avoir une communauté et on va trouver une identité. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Alors, une famille dysfonctionnelle il y a 4000 ans, d'ailleurs, les nouvelles technologies de fabriquer les briques, ça, quel est le rapport aujourd'hui? Mais finalement, est-ce qu'on est si différent que ces personnes-là? Est-ce que parfois, nous aussi, nous ressentons une certaine vide dans nos vies? Un manque d'affirmation des autres, un soif, une faim, une recherche d'une bénédiction. Est-ce que nous sommes aussi tentés de manipuler les circonstances, de trouver un autre moyen de faire construire des tours pour arriver à la bénédiction, pour être rassuré qu'on a un accès parfait envers une puissance spirituelle, envers Dieu, ou envers juste quelque chose qui va nous donner finalement une identité sûre. C'est une tentation il y a 4000 ans, mais je pense qu'il y a une tentation, même aujourd'hui, de faire construire une tour pour trouver quelque chose de solide et sécure, et une identité qu'au fond de nous, on a une soif. Je sais qu'il fait un peu peur avec ce récit. Bon, chaque personne dans la famille est très sensible à la manipulation de l'autre, mais pas forcément là, chez leur propre vie. Peut-être prendre l'exemple d'un alcoolique, hein, qui est quand même un exemple flagrant, hein, qui va chercher de remplir sa vide. Les difficultés dans la vie dans l'alcool. Et souvent, on le voit très bien le problème de l'extérieur. Oh, le type là, il n'est pas alcoolique. Mais la personne elle-même est renie de ce problème. Et là, c'est un exemple flagrant, mais on peut avoir d'autres exemples. Hein. Quelqu'un qui vit vraiment pour l'approbation des autres. Je veux que les autres pensent bien de moi. Et c'est un stress. Et on tombe dans une hypocrisie. Ce qui compte dans ma vie chrétienne, c'est ce que les autres pensent. On devient hypocrite, mais même nous, on ne le sait même pas. C'est plutôt flagrant auprès des autres. J'ai certains besoins. J'ai peut-être certains besoins sexuels. Et c'est en faisant cela que je vais trouver, et je dois trouver, mon identité. Ou même, je pense qu'il est plus difficile, je veux être béni par Dieu. Je veux être un bon chrétien. Je veux une fierté avec ma vie chrétienne. Et du coup, subtilement, on commence à faire construire la tour évangélique parfaite pour être sûr, pour trouver, pour être rassuré dans notre identité. Et dans chaque situation, avec cette tour et dans la famille d'Abraham et Jacob, Dieu fait la grâce d'embêter leur projet de manipulation. Ça n'a pas marché. Hein. C'est pour ça que Jacob, il est en exil. Il doit fuir. Il est sur la route, il n'a plus rien. Lui qui aimait bien rester sous les tentes, maintenant il est sur la route, en long voyage, tout seul. Et il ne trouve même pas un hôtel Formule 1. Il n'a qu'une pierre pour son oreiller. Donc, parfois, c'est aussi pareil dans nos vies. Peut-être là maintenant, vous vivez quelque chose de difficile. Une déception, une difficulté. Et peut-être Dieu, dans sa grâce, il veut vous révéler une tour dans votre vie, une fausse piste, pour vous ramener à quelque chose beaucoup, beaucoup plus sûr et solide. Vous savez, Dieu est en train de préparer Jacob pour quelque chose d'extraordinaire. Et Jacob a dû quitter sa sécurité. Il a dû voir une déception forte. Pour être prêt à recevoir quelque chose de tellement meilleur. Donc, point 1, déception et exil suite à la manipulation de la vie de Jacob. Alors, deuxièmement, Jacob rencontre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Vous avez dans notre texte. Il a un rêve et il voit quoi dans ce rêve? Il voit une échelle posée, appuyée sur la terre et son sommeil touchait le ciel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le mot, c'est la seule fois qu'on voit ce mot hébreu dans la Bible. Je ne sais pas trop exactement, est-ce que c'est une échelle? Ça veut aussi traduire rampe ou même escalier. Alors, une tour avec un escalier. On ne sait pas trop en fait par rapport à ça. C'est tellement vieux, ça fait 4000 ans. Mais les archéologues, ils ont quand même découvert quelques artefacts, quelques éléments de l'époque. Vous savez ce que une chose qu'ils ont trouvé, des historiens, des archéologues, des anciennes tours. Ils ont trouvé des tours, ça s'appelle les ziggourats. Ça vient de Mésopotamie. Ils ont trouvé, même en Irak là maintenant, ils ont découvert ces tours de l'époque. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quand même un élément intéressant. Hein, en fait, c'est des espèces de tours pour avoir accès au Dieu, au ciel. Donc j'en ai un érudit, il a dit, celui par rapport à ces tours. La meilleure indication de la fonction de ces tours se trouve dans leur nom. Le nom de la ziggourat à Babylone signifie « temple de la fondation du ciel et de la terre ». Celle à Zippar porte le nom « le temple de l'escalier vers le ciel pur ». D'ailleurs, la famille de Jacob, il vient de cet endroit, vient de cette zone, hein, la Mésopotamie. Donc, c'est forcément peut-être qu'il y avait cette idée culturelle dans sa tête, toutes ces religions qui faisaient construire des tours avec un escalier pour avoir accès au Dieu. Et Jacob, il voit quoi dans son rêve? Il voit une échelle, un escalier qui descend vers lui. Lui, il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait construire toute une tour? Est-ce qu'il a fait tout un projet? Zéro, c'était un des moments plus solennels dans sa vie. C'est rigolo, il n'a qu'une pierre pour son oreiller. Pas une tour très impressionnante. Hein. Et il voit dans son rêve le Dieu qui descend vers lui. Et on a déjà répété ce matin, c'est un point essentiel dans la Bible, Dieu descend vers nous. Mais je pense que parfois, on n'est pas conscient de la choc de cette... Quelle est la différence, le choc un peu contre-culturel pour quelqu'un comme Jacob? Il avait toute la culture savait très bien, il fallait construire des tours, il fallait manipuler les choses pour arriver à la bénédiction de Dieu. Et là, ici, un moment solennel dans la vie de Jacob, il voit dans son rêve Dieu qui descend. Le ciel et la terre unis par cette échelle et les anges, les messagers de Dieu qui montent et descendent. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui descend. Il descend vers nous. Il descend vers nous dans notre faiblesse, là où on se sent un peu perdu, sur la route, dans la difficulté, Dieu descend. Mais je pense que cette rêve, c'est quand même une partie visuelle qui donne un peu une illustration du cœur. Parce que le cœur est ce Dieu qui parle. Parce qu'il ne va pas juste voir une image d'un escalier, mais il va écouter quelque chose. Dieu va parler. Dieu descend. Et Dieu parle. Et qu'est-ce que Dieu dit? En fait, c'est intéressant parce que si on avait... Imaginons qu'on est là, comme Jacob, on voit cette vision, cet escalier qui descend, Et Dieu dit, ok, je descends, le ciel est ouvert, je suis pour toi. On peut avoir une petite temps de questions-réponses. Jacob, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, j'imagine Jacob aurait plein de questions. Hein. Est-ce que déjà tu me donnes les coordonnées GPS pour arriver jusqu'à Haran, parce que c'est un très long trajet? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais trouver ma famille? Est-ce que je vais trouver une femme? Est-ce que ce sera joli? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce que je veux retourner en paix chez mon père? Est-ce que ça va marcher? J'imagine il y avait énormément de questions. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais manger demain? Je suis nulle part, j'ai que cette pierre. Plein de questions pratiques. Et vous savez ce qui est vraiment fort? Qu'est-ce que Dieu dit? En fait, il touche pas forcément les choses tout à fait pratiques devant Jacob. Vous savez, Dieu répète une promesse que Jacob, c'est sûr qu'il avait déjà entendue. Parce qu'il répète carrément la même promesse qu'il avait donnée à son père Abraham, son grand-père Abraham, son père Isaac. Il répète, mais cette fois, c'est pour Jacob. C'est une vérité qu'il savait, oui, il avait appris ça en école de dimanche, etc. Mais maintenant, cette fois, c'est pour lui, c'est personnel. Verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, le Dieu Abraham, le Dieu d'Isaac. Il part d'une terre, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Il part d'une descendance. » Verset 15. « Je suis moi-même avec toi et je te garderai. » Il répète, on voit que la même promesse qu'on a déjà vue dans Genèse, une terre, une place, une vraie chez toi, une mission, une influence sur le monde. Vous serez une bénédiction pour toute la famille de la terre. Et puis, dernièrement et plus important, vous aurez une relation personnelle. Je serai avec toi. Une relation avec moi. C'est fort. Dieu ne sort pas tout de suite, Jacob, de toutes ses difficultés. D'ailleurs, plus loin dans sa vie, il va bien vivre les conséquences de ses bêtises. Il avait trompé son frère, il va être trompé par ses fils. Mais Dieu rappelle, même pas en rapproche, il avait fait toutes ses bêtises, il est en train de fuir la terre promise. Les promesses, un terre, un chez-toi, une mission, une influence, et je serai avec toi, une relation personnelle. Dieu rappelle ces promesses qu'il avait déjà données à Abraham, à Isaac. Peut-être qu'il savait, forcément il connaissait avant, mais cette fois-ci, le ciel est ouvert et ces promesses sont personnelles et pour lui. Pour vous, comment on constate la puissance divine dans nos vies? J'imagine pas mal de choses, on peut témoigner. Hein? Mais si Dieu veut manifester sa puissance divine, dans nos vies, qu'est-ce que ça donne quoi? C'est intéressant comment Pierre, dans le Nouveau Testament, raconte cette puissance divine dans nos vies. Il dit en Pierre, à la fin de sa vie, il dit, sa puissance, il parle de Dieu, divine, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La première chose, c'est d'avoir justement cette vision, connaître Dieu. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pierre est très conscient, souvent on a ces vies dans nous, certaines convoitises qui est très présente dans ce monde. Comment s'en sortir? Pas juste les éviter dans nos propres forces, mais d'être rempli avec quelque chose tellement meilleur, d'être rempli par les promesses divines. Ces promesses qui sont précieuses, promesses que Dieu est pour nous, que Dieu aussi nous réserve. Les mêmes promesses qu'il avait données à Jacob. Et c'est ça qui nous permet de vivre différemment, de ne pas vivre dans la manipulation en train de construire nos tours, mais de savoir que Dieu est pour nous, Dieu descend vers nous, et on peut vivre libéré de nos convoitises, parce qu'on connaît les promesses. Et ce n'est pas donné. Hein. Pour cela, il faut la puissance de Dieu. Il faut la puissance divine. Ouais, comment Dieu se révèle à Jacob? Il descend. Il descend par ses promesses. Et quand il descend, Jacob est changé. Ça, c'est un troisième point. Comment ça change? Comment le Jacob après? Et Jacob se réveille et dit, wow, c'est certain. L'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il se trouve beau, ces mots sont pleins d'espérance. Dieu était beaucoup plus grand, beaucoup plus présent que moi, j'imaginais avant. Il est là. C'était juste une pierre, j'étais un peu nulle part. Et l'Éternel est là, il est pour moi. C'est-à-dire que sa vision avant était beaucoup plus limitée que sa vision après. Moi, j'ai eu tort. Dieu est là et moi, je ne le savais pas. Et je pense que c'est ça. Ça, c'est le commencement, ce que la Bible dit, la repentance. On peut changer notre vie quand nous changeons notre regard vis-à-vis de Dieu. Si nous avons une vision de Dieu qui est très limitée, on sera bloqué. L'autre jour, c'était un hiver quand même froid hein, cette année. Hein, et pas mal de fois que les dégivrés, mon pare-brise. Une fois, j'étais un peu pressé. Oh, ça va, ça passe. C'était un peu comme la glace, les gifres dessus. Je pars. Et à un moment donné, je vois carrément plus rien. Je dis, oh là, David, faut que tu arrêtes ta voiture et tu vraiment bien dégivres le pare-brise. Sinon, tu ne vas pas voir et tu ne peux pas avancer. Et combien de fois dans nos vies spirituelles, nous sommes un peu bloqués, nous sommes tentés de tomber dans les projets, de bâtir des tours, de manipuler des choses, parce que finalement notre vision de Dieu est petite. Et c'est un peu comme Jacob, Dieu est là pour nous, Dieu est présent, mais nous ne le savons pas. On est en train de faire notre vie, faire notre truc, et notre vision reste trop, trop petite. Et ça nous bloque. Et la liberté, c'est de pouvoir dire comme Jacob, Dieu est plus grand, Dieu est là, Dieu est pour moi. Et moi, je ne savais pas. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, je peux changer, je peux être rassuré, je peux. Il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Extraordinaire. Hein? Lui qui avait cette idée des tours, une maison de Dieu, ça doit être impressionnant. Et ici, il dit, c'est juste une pierre et c'est là qu'il se trouve la maison de Dieu. Un endroit tout humble, tout normal. Vous savez, parfois, c'est la même chose pour nous. Vous avez des moments où vous lisez votre Bible, parfois juste un livre, chez vous, ou peut-être dans une église comme ça, tranquille, humble, pas grand-chose. Et vous rencontrez le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, le Dieu qui parle avec ses promesses, le Dieu qui nous transforme et on dit, Dieu est là, Dieu est ici. Oh, on n'en avait pas forcément conscient, mais il est là, il est pour nous, que cet endroit est redoutable. C'est magnifique d'être là dans la présence d'un Dieu qui est vivant. Et il répond avec reconnaissance, il fait une culte d'adoration, il verse de l'huile sur la pierre. La pierre qui d'avant était juste un oreiller, tout à fait un peu bateau pratique, devient un lieu de reconnaissance et d'adoration. Je pense ça aussi la preuve. Est-ce qu'on a rencontré la Dieu de la Bible? Notre première réaction, c'est de donner toute notre reconnaissance, notre adoration. De pas partir dans des projets de davantage qu'on faire construire des tours ou de manipuler les événements de nos vies, mais de répondre avec adoration et avec reconnaissance. Et je trouve aussi encourageant, ça pas tout à fait, c'est pas une transformation qui se fait paf d'un coup, et Jacob est complètement parfait, le type qui a tout réglé dans sa vie. On voit même Jacob qui était en ce problème de manipuler les choses. Il dit, OK Dieu, il retombe un peu dans les négociations. Hein. Si Dieu me ramène, puis après je vais, il sera mon Dieu. On va voir que Dieu, il va encore prendre beaucoup de temps dans la vie de Jacob pour le sanctifier, le transformer. Mais on voit quand même un changement important, extraordinaire ici. Jacob rencontre Dieu. Alors pour nous aujourd'hui, ça serait quand même chouette de pouvoir avoir ce même rêve. Hein. On avait une boisson qui fait rêver, on peut boire en quittant la salle et ce soir tout le monde, paf, un rêve comme ça. Non, ça serait un peu bizarre. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, j'ai vu sur le site web, vous êtes en train d'étudier l'évangile de Jean, non? Une série sur l'évangile de Jean. Vous vous souvenez au début de l'évangile de Jean, c'est extraordinaire. Jésus nous dit que cet escalier existe toujours, existe pour nous. Début de l'évangile de Jean, on a cette rencontre entre Philippe et Nathanaël. Et Philippe est motivé, il dit, on a trouvé le Messie. On a trouvé celui qui accomplit toutes ces promesses dans l'Ancien Testament. Viens, 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 on l'a rencontré. Et Nathanaël n'est pas tout à fait convaincu. Donc, Philippe parle à Nathanaël, viens, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, c'est lui dont tous les prophètes et les lois en parlent. Et Nathanaël dit, ah, tiens, Nazareth, ce n'est pas une ville très impressionnante, il n'y a pas des grandes tours très impressionnantes là-bas. Et puis, il dit, viens, vois. Et apparemment, Nathanaël était sous un figuier en train de faire quelque chose, loin de cet endroit. Et du coup, Nathanaël, il a l'humilité et le courage de suivre le conseil de son ami. Alors, tiens, ok, je vais venir, je vais voir. Et il rencontre Jésus. Et Jésus dit, ah, je t'ai vu sous le figuier. Et Nathanaël dit, bah, il avait cette connaissance surnaturelle. Il m'a vu, j'étais loin, il sait des choses sur ma vie, waouh! Et puis Jésus répond avec ce verset, en verset 50 et 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Juste de faire preuve d'une connaissance surnaturelle, c'est impressionnant, mais vous verrez des choses bien plus grandes. Et il fait référence à cette histoire. Vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, un titre que Jésus aime bien pour lui-même. Avec moi, vous verrez le ciel ouvert, vous verrez un escalier qui touche qui rejoindra le ciel et la terre, et vous verrez l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que c'est vrai? On a dit que Dieu descend dans notre faiblesse. Il descend pour être en relation avec nous. Vous savez, à la fin de l'évangile de Jean, Jean parle d'une heure de la glorification de Jésus. C'est là où quand Jésus va vraiment manifester toute son vrai caractère, sa gloire. Et c'est quand? C'est quand l'heure de la gloire de Jésus? C'est à la fin de sa vie. Quand Jésus va être cloué sur une croix romaine. Et c'est quoi cette histoire? Bah, Dieu qui descend. Hein? Dieu qui descend jusqu'à nous. Ce n'est pas juste nous, dans notre faiblesse comme Jacob, nulle part, coupable. Mais Dieu descend finalement pour prendre toute notre culpabilité et se charger sur lui, prendre sur lui nos péchés, notre rébellion, tous les effets de nos manipulations, toutes les bêtises qu'on avait faites. Lui, il prend sur lui à la croix, il se charge de nos culpabilités, nos péchés, il descend, Dieu descend. Et la preuve, c'est la croix. Dieu descend jusqu'à une croix, jusqu'à une place affreuse, une mort affreuse pour nous. Dieu descend. Et 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité entre les morts pour lui donner cette promesse. Vous vous souvenez de la promesse qu'il avait donnée à Jacob? Une place, un vrai chez-toi, une mission, une influence et une relation personnelle. Vous savez, par la croix et la résurrection, Jésus nous donne ces mêmes choses sur une échelle encore plus grande. Une vraie chez nous, un monde nouveau. Et on vient de célébrer ça hein, à Pâques, la semaine dernière. La résurrection, on a cette assurance qui n'est pas juste une assurance farfelue, mais sûre et certaine que nous allons avoir les nouveaux corps dans un nouveau monde, renouveler profondément Christ et les prémices de cette moisson de vie qui va toucher tout ce monde, toute cette terre. Et après, on va avoir une mission. Hein. Mais maintenant, Dieu va nous utiliser. Dieu va utiliser son Église ici. Ici pour faire connaître son nom et ses promesses. On a une mission, une belle mission de partager cette bonne nouvelle dans ce monde. Et nous avons l'assurance que Dieu est pour nous. Si Dieu est mort pour nous, il nous aime. Il nous aime comme il a aimé, choisi Jacob. On va avoir la même assurance et confiance aujourd'hui que Dieu est pour nous. Dieu est là. S'il est mort sur la croix pour nous, c'est sûr qu'il nous accepte tel que nous sommes. Et par sa résurrection, une vraie espérance qu'il est vivant, il est pour nous. Du coup, connaissez-vous, hein, c'est la question, est-ce qu'on connaît ce Dieu de Jacob? Est-ce qu'il est pour vous une haute retraite? Est-ce qu'il y a, dans peut-être des moments difficiles, est-ce qu'on peut être conscient peut-être des tours ou les éléments de manipulation qui peut-être sont présents dans nos vies? Est-ce qu'on peut tourner nos regards vers Dieu et dire: Dieu, descend de nouveau dans ma vie. Aide-moi à être motivé, à être capté par tes promesses si précieuses, afin de fuir la corruption qui est dans ce monde et de vivre différemment, de vivre une vie de paix, d'amour, de courage, parce que je sais, je connais tes promesses. Je crois qu'elles sont fortes et puissantes pour me transformer et pour me changer. En Christ, c'est une réalité. Et donc, vivons avec cette espérance, vivons avec cette confiance que Dieu est pour nous et il est pour nous une haute retraite. Je prie pour terminer. Seigneur, merci pour le fait que tu es le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu es aussi le Dieu de Jésus-Christ. Merci pour cette espérance que nous avons en toi. Seigneur, aide-nous à avancer par la foi en tes promesses, et pas juste par la manipulation un peu de nos propres désirs. Transforme-nous davantage, et Seigneur, que nous puissions refléter cette paix, cet amour et cette vie que nous avons en toi. Nous prions en ton nom. Amen.